Alors, vous prenez la page à la tête. J'espère que ça va aller, ma mère, je suis pas sûr. Donc, nous sommes au chapitre 41. Bien, je voudrais essayer de toucher deux sujets. Je suis trop optimiste. Attendez, je vais encore essayer. Est-ce que j'ai une pastille? Voilà. Le premier sujet, c'est la raison pour laquelle, enfin, la manière dont la Torah nous explique pourquoi Joseph est arrivé à un poste aussi élevé dans la civilisation égyptienne, qui consiste à être littéralement Mishne la Melech, le deuxième après le roi. Et vous remarquerez qu'il y a quelque chose de très parallèle avec ce qui se passe à Pourim, avec Mardoché. Mardoché aussi est arrivé à être le deuxième après le roi. Et il y a dans la paracha de Miketz et dans la Megillat Esther certaines expressions qu'on ne trouve que dans ces deux endroits. Viafke, Damelir, Pekidim, dans la Megillat Esther, ça renvoie à des expressions analogues qu'il y a dans notre paracha. Il est bien évident que dans les deux cas, nous avons l'exemple d'un membre d'Israël. Dans le cas de Joseph, c'est encore le temps des Hébreux. Dans le cas de Mardoché, c'est déjà le temps des Juifs, des Yéhoudis, des Judéens. Qui arrive dans cette vocation d'Israël chez les nations mêmes, qui arrive au poste le plus élevé. Il est très frappant de voir les analogies qu'il y a entre ce qui se passe pour les Hébreux en Égypte et pour les Judéens dans l'Empire perse. Et avec à la fin de cette aventure, de manière, semble-t-il, inévitable, il faut ici y réfléchir, l'irruption de Amalek pour essayer de détruire Israël, précisément dans les moments de fin d'exil. Lorsque le moment de la fin de l'exil est arrivé et que Amalek surgit pour mettre fin, pour détruire ce peuple qui a donné la preuve qu'il est Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, qu'il a un privilège, une vocation particulière par rapport à l'histoire des civilisations. Lorsque c'est la civilisation égyptienne, c'est Joseph qui installe la tentative de sanctification de l'Égypte par Israël. Elle va échouer, mais elle a eu des moments d'apogée. C'est Moïse qui fera le diagnostic que c'est un échec, mais elle a eu tout ce temps de dévoilement qu'une civilisation n'existe que dans la mesure où Israël y est relié en tant que Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Et j'entends déjà toutes les objections que vous n'avez pas formulé par rapport à ce que je viens de dire. Qu'arrive-t-il à toutes les autres civilisations que celles dont parle la Bible? Mais je voudrais, toute petite parenthèse sur ce point, et je vous avais en tête, et les grandes civilisations de l'Extrême-Orient, et toutes ces humanités, il faut dire, dont la Bible semble ne pas parler. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est pas le sujet, mais je crois que c'est important de l'éclairer. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, je crois que je suis arrivé à trouver le ton bari. C'est pas le bariton. C'est que J'aurais pas dû dire ça, ça me fait rire. C'est que la Bible ne s'intéresse que au premier cercle des nations qui entourent Israël, qui entourent plus exactement la famille d'Abraham. Et alors, les interpellations d'identité qui nous viennent du côté des nations, ce sont celles qui concernent la famille d'Abraham. C'est-à-dire, essentiellement, Moab, Ammon et Moab qui viennent de Lot, Ishmaël qui vient d'Abraham, Esav qui vient de Yitzhak. Ce sont ces civilisations-là qui intéressent le récit biblique. Ça ne signifie pas qu'à travers ce premier maragal, ce premier cercle de nations qui entourent Israël, il n'y a pas un lien entre Israël et les nations en général. Mais il y a ce cas particulier, spécifiquement de l'islam et de la chrétienté, qui semble faire écran entre Israël et les nations. Il y a, pour schématiser cela, il y a Israël et les 70 nations. Et entre Israël et les 70 nations, il y a l'interpellation d'identité des autres lignées de la famille d'Abraham. Elles sont au nombre de 6, mais elles se particularisent dans les deux grandes contestations, l'islam qui vient d'Ishmaël et la chrétienté qui vient de Esav. Et vous avez donc, si vous voulez, trois niveaux. Il y a Israël, la chrétienté et l'islam, Ishmaël et Esav, et d'autre part, les 70 nations. J'ai l'habitude de citer, lorsque je parle de cela, un livre qui m'avait beaucoup frappé dans ma jeunesse. C'était un livre des frères Tarot, Jean et Jérôme, ou Machu Cosé, qui s'appelait « À l'ombre de la croix ». Et alors, en lisant cela, j'avais compris que la thèse du livre, c'est que les synagogues n'existent qu'à l'ombre des églises. Et j'avais compris qu'il manquait un volet. C'est le sang. Il y a la croix, il y a le croix, sang. Et il faut compléter les deux. Vous entendez toujours dire « mesdames, mesdames, mesdames ». Bien, je reviens au sujet. Effectivement, semble-t-il, dans l'exil, les communautés juives qui ont résisté à l'assimilation totale sont celles des pays nés de la chrétienté ou de l'islam. Les autres communautés se sont dissoutes. Il y a eu des voyages de juifs en Chine, en Inde, partout. Mais l'assimilation dans ces civilisations très libérales du point de vue culturel, ce sont des civilisations qui sont très accueillantes et qui par conséquent dissolvent l'identité juive. Et pour que l'identité juive subsiste, il faudrait soit dans des ghettos chez des ennemis, lui disputant son identité, c'est-à-dire l'église et la mosquée, enfin la croix et le croissant. Oui, à peu près quel est le problème. Donc je referme cette parenthèse. Donc j'avais commencé à indiquer cela, qui est très frappant, le parallèle entre la civilisation égyptienne et Joseph, la civilisation perse et Mardoché. Deux mêmes empires, avec la même contestation entre le parti du roi, l'empereur si vous voulez, qui sont les Amalécites pour l'empire perse, et les Égyptiens pour la civilisation égyptienne. Le pharaon, avec les Égyptiens, avait dominé sur tous les pays, disons, civilisés, entre guillemets, du bassin méditerranéen. Eh bien, on voit la même structure qui apparaît. Je crois que de notre temps, là où c'est le plus frappant, c'est l'analogie de l'Empire soviétique. L'Empire soviétique avait place pour toutes les identités nationales, sauf pour les Juifs. Et effectivement, je crois que le déclin de l'Empire soviétique a commencé quand les Juifs de Leningrad, une petite poignée de Juifs, ont commencé la révolte des Juifs contre le pouvoir communiste et les autres minorités nationales ont suivi. C'est très... Je ne vais pas prendre trop de temps pour analyser ces analogies, mais elles sont très frappantes. En particulier, le peuple juif a réagi de manière assez analogue. « Shalach et Ami », on l'a entendu à propos des Juifs de Russie, plus particulièrement, ni ceux de Syrie, ni ceux du Yémen, ni ceux du Maroc, ni ceux de France, pas encore, mais ça viendra. On a entendu ça de manière spécifique. On l'a entendu à propos des Juifs de Russie. « Shalach et Ami ». La Sornoute a oublié la fin du verset. Veya Abdouni. Ça, c'est une question de régime. Une question de culture du pouvoir. Mais c'est finalement la même réaction. Bien, je referme cette parenthèse. Eh bien, sur le premier sujet, je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur la raison pour laquelle on a besoin d'Israël dans ces civilisations-là, en prenant l'exemple de l'Égypte et de Joseph. Ce sera le premier point. Le deuxième point, si on y arrive, ce serait d'essayer de comprendre pourquoi Joseph tient absolument à ce que Benjamin, vienne en Égypte. Pour dire immédiatement l'essentiel, c'est afin de pouvoir attirer Jacob. Mais malgré tout, ça passe par Benjamin. Alors, je vais arriver quand même au deuxième point. On va tout de suite aborder le premier. Eh bien, il y a une chose qui frappe lorsqu'on lit les rêves du Pharaon et la manière dont Joseph les interprète, puisque c'est l'événement, le phénomène, disons, par lequel commence l'ascension de Joseph. Ce qui frappe, c'est que l'explication que Joseph donne de ses rêves est très simple. Un enfant du Talmud Torah est capable d'interpréter les rêves du Pharaon. Vous avez dû remarquer cela en lisant les rêves des épis de blé, les rêves des vaches, les vaches grasses, les vaches maigres, les épis de blé, c'est les vaches d'abord, ensuite les épis. Mais, comme on dit en français, labourage et pastourage sont les deux mamelles de l'Égypte. C'est l'économie égyptienne qui est en question. Et puis, Joseph explique de manière très simple que l'économie égyptienne va se dérégler. Et que par conséquent, il faut installer un plan, je ne sais pas comment on pourrait dire, quinquennal, comment on dit avec cette année,
septennal,
oui. C'est comme Mitterrand, enfin, je veux dire, l'empereur, ben, bref. Et puis finalement, tout ça est très simple. Et alors, la difficulté, c'est pourquoi ni le pharaon, ni les sages du pharaon, les Hartoumim, vous savez d'ailleurs que les Hartoumim étaient les disciples des grands monastères, des sorciers de l'époque, qui étaient à Hartoum. Et c'est le même mot, c'est. Oui, qu'on se retrouve en pays d'origine, pays de connaissance. Voilà, il faut que je m'interdise de faire des parenthèses. Chaque fois, ça me déclenche des atouts supplémentaires. Alors, pour revenir au sujet, je vous dirai très rapidement quelques-uns des exemples. Je suis vraiment désolé, mais j'espère qu'il n'y a pas désolé Hadash, là. Quelques-uns des exemples que le Midrash cite, comment les conseillers du Pharaon expliquaient ses rêves, et le Pharaon n'était pas satisfait. Par exemple, que le Pharaon allait gagner 7 guerres, et ensuite perdre 7 guerres, qu'il allait avoir 7 filles, et donc, grâce à elles, acquérir 7 provinces par mariage, et ensuite les perdre. Des explications de type civilisation des nations, histoire des peuples. Et ça ne satisfait pas le pharaon. Alors la petite parenthèse, un pharaon qui rêve, c'est déjà un problème. Un pharaon qui rêve, c'est un pharaon qui hébraïse. Alors on va rencontrer un épisode de l'histoire de l'Égypte où fondamentalement, il y a la rencontre entre Israël et une civilisation dont le chef, dont le roi, hébraïse. Qu'est-ce que j'entends par là ? Mais vous vous rappelez de l'histoire du Kuzari. De l'histoire du Kuzari. Bien, ça nous donne la clé de cette remarque. Le Kuzari était un roi de Goïm, d'une petite royauté qui était coincée, je crois que c'était au 9e siècle de l'ère actuelle, qui était coincée entre l'Empire chrétien et l'Empire musulman. Et pour des raisons de stratégie politique, il a finalement décidé de se convertir au judaïsme. La forme de ne pas être absorbé soit par la chrétienté, soit par l'islam. Finalement, ce royaume qui est devenu un royaume juif, mais pas au bout de quelques temps, a été absorbé par l'Empire musulman. et énormément d'individus, peut-être même quelques tribus, mais elles se sont finalement assez perdues, quoique j'ai connu des membres des Khazars et qui étaient très jalousement fiers de leur identité nationale et ne se mariaient pas avec des juifs. Ils étaient en religion juive, ils ne se mariaient pas avec des juifs, de peuple juif. Alors, comment Judas Lévi raconte dans le Kuzari l'histoire de la conversion du roi des Khazars et du peuple des Khazars? Ça commence par un rêve. Je voudrais très rapidement un peu approfondir cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui rêve hébraïse? J'ai un peu raccourci la remarque. Eh bien, nous avons déjà parlé de cela à propos du rêve de Jacob. Et pas seulement cette année, c'est-à-dire le Talmud indique déjà que le rêve, c'est le commencement de la prophétie. Il y a quelque chose dans l'âme, dans la vie intérieure de l'homme, qui le mène à deviner, à avoir l'intuition de quelque chose qui dépasse la réalité pure et simple de ce monde-ci. Et ça, c'est le rêve dans le sens noble. Bien sûr, il y a différentes catégories de rêves. Il y a des rêves qui résultent d'une digestion difficile. Il y a des rêves qui résultent de désirs inassouvis, mais il y a des rêves d'idéal. Ces rêves-là sont le commencement de la prophétie, un soixantième, dit le Talmud. Et alors un pharaon qui rêve, c'est un pharaon qui hébraïse. C'est Jacob qui est le premier rêveur, non pas du ghetto, comme dirait Zangouil, mais le premier hébreu qui rêve dans l'histoire racontée par la Torah. Et je vous avais rappelé à l'époque, je ne sais pas si cette année qu'on a étudié ça, vous en souviendrez peut-être, qu'en hébreu, les deux mots, chalom et lechem, ont les mêmes lettres. Il y a toute une série, Kabbalah a étudié ça, étudie cela, toute une série de mots qui ont les mêmes lettres, melach, lechem, milchama, achlama, chalom, tout ça c'est des niveaux du même comportement. Bon, mais je referme la parenthèse, ça nous prendrait une heure pour voir les correspondances dans les registres français. Mahol aussi. Mahol, c'est Ormakif, des différentes madrigotes. Quoi qu'il en soit, je reviens au sujet. Le roi des Khazars rêvait, et c'est dans le rêve qu'il a pressenti, qu'il a eu intuition. Il y avait une vérité qui dépassait les religions naturelles, fût-ce les religions comme l'islam et la chrétienté. J'ai dit religion naturelle, alors je m'explique un peu. Ce sont des philosophies religieuses, des mystiques religieuses qui s'agrippent à la révélation de la Bible. Mais la révélation de la Bible, c'est le judaïsme que les Hébreux nous ont transmis. Je voudrais citer ici une phrase de Benogros qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années. Il parlait du Kuzari et il citait Judas Lévi, il disait cela. Il n'y a de religion vraiment, dans le sens le plus clair du terme, religion révélée, que la Torah. Et les autres, c'est des philosophies religieuses. C'est l'homme qui recherche son Dieu. Alors que la Torah, c'est Dieu qui se révèle à Israël. Et ce sont deux expériences radicalement différentes. C'est pourquoi là, un dialogue avec les autres religions est si difficile. Avec les mêmes mots, on se réfère à des réalités exactement inversées. Ça ne veut pas dire que dans le judaïsme, on ne connaît pas aussi l'expérience religieuse de l'homme qui va vers Dieu, mais cela, ça reste le domaine de la vie spirituelle privée de chacun. Le chemin de chacun, dans ce sens-là, est génial pour lui-même. Il ne peut pas être partagé avec quelqu'un d'autre. Sauf dans le cas de communauté, où un tzaddik, un chassid, montre la direction, montre un derrière. Tiens, je crois quelque chose d'analogue entre direction et derrière. Peut-être pour sémantiquement étudier ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a une grande règle. C'est qu'en principe, la Torah, les secrets de la Torah, disons, ne s'étudient jamais en public, mais un maître et un élève, ou à la rigueur, un maître et deux élèves. Et lorsque les deux élèves sont des chavérim, c'est-à-dire le même genre d'âme, parce que le chemin de chacun dans cette expérience religieuse de l'homme qui va à Dieu est spécifique. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas dans le judaïsme. Vous ne trouverez jamais de texte traditionnel décrivant le monde intérieur de la vie spirituelle, même chez les chassidim. Alors que dans les autres religions, vous trouvez des livres qui décrivent les expériences mystiques de Sainte Thérèse d'Avila, pas Saint Thomas d'Aquin, mais l'autre, le fondateur des Jésuites, comment il s'appelle ? Ignace de Loyola. En général, des juifs convertis d'ailleurs, on a compris pourquoi ils sont convertis, invertis. En tout cas, pour revenir au sujet, cette capacité de rêve, c'est, on l'a appris avec Jacob, le lien entre le ciel et la terre. Par conséquent, un pharaon qui rêve est déjà prêt à entendre la révélation que les Hébreux vont lui apporter. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Et vous remarquerez que Assuérus aussi a rêvé au moment de la rencontre avec Mardochée. Bien. Dans l'histoire des religions, on étudie un peu la structure intellectuelle de ces grands paganismes de l'Antiquité. Et on arrive à établir cela. C'est que c'est une pensée fataliste, déterministe. Fataliste, ça renvoie à la mentalité antique de l'Antiquité. Déterministe, à la mentalité moderne. Un marxiste a cette même structure mentale que celle du pharaon qui lui interdit de comprendre les rêves. Pourquoi je dis un marxiste ? Parce que c'est dans la civilisation contemporaine l'exemple le plus clair. Vous comprenez pourquoi je vais vous dire à la fin du cours que la semaine prochaine, c'est pas moi qui fais les cours. Il faut que j'aille soigner ça. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, dans la pensée marxiste orthodoxe, et je crois que c'est en général vrai pour la pensée orthodoxe en général, il y avait un philosophe juste après la guerre mondiale qui s'appelait Jean Grenier, vous avez entendu parler, et qui a écrit un essai sur l'orthodoxie, et qui est très très, très clair à ce sujet, l'orthodoxie de pensée. C'est une idéologie qui est rebelle à tous les démentis que la réalité peut offrir. La réalité est autre que ce qu'il y a dans l'idéologie, mais l'idéologie est crispée et elle veut s'imposer par la force à la réalité elle-même. Alors je crois que dans la situation contemporaine, le phénomène culturel qui y correspond, c'est évidemment le marxisme orthodoxe, bien entendu. Et alors, dans ces religions d'Antiquité, que les historiens des religions appellent l'astrobiologie, il y a une conception que tous les phénomènes de l'homme sont déterminés à la manière dont sont déterminés tous les phénomènes du monde. Un peu, si vous voulez, la mentalité astrologique. Et par conséquent, l'idée que l'économie, qui est le phénomène social, humain, fondamental, puisse être déréglé, alors que c'est le cours des astres, les dieux qui règlent cela, le Nil, c'était la divinité de l'Égypte, les crues du Nil sont la clé de l'économie égyptienne, penser que l'économie égyptienne puisse se dérégler, c'est un blasphème. En culture soviétique, on enverrait à l'hôpital psychiatrique quelqu'un qui dirait que le plan Krekhenov, ça ne peut pas marcher. Je vous rappelle un temps culturel, la Russie soviétique n'est pas si loin de nous. Et mettre en question la sainteté, la royauté du petit peuple, du petit père des peuples, Staline, ça me rappelle des choses. Hein. C'est un blasphème shabaktique. Pour revenir au sujet, c'est la pensée orthodoxe. Impossible, impensable de penser un dérèglement des crues du Nil qui mènerait à un dérèglement de l'économie égyptienne. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Qui va expliquer cela ? C'est un hébreu. Vous voyez à quel point il est clair que tous les détails de ce récit ont leur place importante. Il faut qu'on sache que Joseph est un hébreu. Alors c'est dit en tout clair que Joseph est un hébreu. Et lorsque les ministres du pharaon racontent que leurs propres rêves ont été expliqués par un esclave qu'il y avait dans la même prison qu'eux, ils disent tout naturellement un hébreu. Et lorsque le pharaon entend un hébreu, donc on sait ce que c'est, l'identité hébraïque. Dans le temps culturel de l'époque, il y a cela dans notre temps, les juifs. Mais Freud était juif. Mais on sait que les interprétateurs de rêves, c'est les juifs. Parce qu'ils sont capables de rêver. Est-ce que c'est clair, ça? Eh bien, alors voilà. Ce qu'il faut découvrir, la mentalité générale de l'époque est réfractaire à l'explication simple que Joseph va donner. Mais l'autorité de son explication vient de ce qu'il est hébreu. Voilà, c'est clair. Et lorsqu'on relit ces textes, ce sont les textes du début de la paracha, alors on comprend que, de quelle nature est cette relation entre les juifs au contact d'une civilisation donnée. Il y a un supplément d'âme, comme dirait Bergson, qui apparaît avec l'hébreu et qui fait que la civilisation en question est fécondée par une présence qui lui donne, au fond, ce dont elle manque. J'ajouterai le rêve. J'ai beaucoup étudié la littérature française, j'allais dire la littérature européenne, dans son visage français, c'est ça que je veux dire. Je crois que on peut trouver ça dans d'autres littératures européennes, surtout la littérature russe, une espèce d'exigence du rêve que finalement, qui n'a pas de mahané, on dit ça en français, de répondant. Hein. Et très souvent, ça tourne au cauchemar. Mais quand les juifs rêvent, alors là, l'économie s'arrange. Vous voyez le raccourci. C'est très frappant de voir que des Joseph, nous en avons eu à toutes les époques de civilisation. Alors, le vrai Joseph, le Yosef HaTzadik, celui qui reste fidèle à son identité hébraïque, c'est très rare. Mais des pseudo-Joseph, il y en a à chaque civilisation. Si vous voulez que je vous cite ce que j'ai connu dans ma jeunesse, ils sont tous finalement capables d'être des spécialistes de l'économie. C'était Léon Blum, c'était Ménès France. Vous voyez, de grands hommes, connus comme juifs, parce que les goïms leur imposent leur origine, mais qui n'avaient avec la communauté juive ou avec Israël, le cas échéant, que des liens artificiels, surtout Ménès France. Vous savez que Ménès France était un juif sfarade d'une branche portugaise, ça s'appelait les Ménès du Portugal, et puis il y a les Ménès de France. Mais avec quelle fierté Mendes s'appelle France, alors que Mendes est un Portugais. Donc, quoi qu'il en soit, de notre temps, bien des grands spécialistes de l'économie, comme pour Mitterrand, c'était Attali, et pour Chirac, c'était Stoléo. Je vous donnerai d'autres noms. Au Moyen-Âge, alors là, c'est le cas d'un Joseph qui est resté hébreu, Abraham Hanel, qui était Yosef Anassi, Joseph Anassi. En Espagne. Eh bien, voilà un peu ce qui pourrait éclairer cet étonnement par lequel j'ai commencé à décrire cette première phase. Pourquoi cette difficulté pour cette civilisation de comprendre quelque chose d'élémentaire pour un gosse juif du Tamutova, comme on l'explique les rêves du pharaon. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a la présence d'Israël quelque part qui rappelle qu'au-delà du déterminisme fonctionnel des lois de la nature, y compris les conceptions du déterminisme du phénomène humain, essentiellement de l'économie, eh bien, il y a une volonté qui gère l'histoire du monde. Une providence, un Dieu créateur. Et, petite parenthèse, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fallu 10 plaies d'Égypte pour, à la fin de cette tentative, obliger le pharaon à donner le feu vert à Israël au temps de Moïse pour sortir d'Égypte. Si la raison des plaies en général était d'obliger le pharaon à laisser sortir Israël, eh bien il suffisait d'une, la plus terrible. En un coup, on fait peur au pharaon et on sort d'Égypte. La plaie de la mort des premiers-nés, par exemple. Donc, c'est que la raison pour laquelle il a fallu 10 plaies, est tout à fait autre. Je vais l'expliquer très, très rapidement. Il y a une progression dans les plaies. Les Égyptiens assistent d'étape en étape à l'évidence que ces plaies ne sont pas que des catastrophes naturelles, dans le sens classique du terme, aveugles, impersonnelles, mais qu'il y a une volonté intelligente qui gère ces 10 plaies. D'étape en étape, se découvre cette volonté libre qui choisit entre les Hébreux et les Égyptiens, et même chez les Égyptiens, entre le premier-né et les autres. Ça commence à se dévoiler lorsque les sages de l'Égypte sont capables de dire « Esba Elohim » et « C'est le doigt de Dieu ». Là encore, c'est Elohim. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à la mort des premiers-nés, là éclate la harada, la terreur de l'Égypte. On découvre que toute la conception du monde propre à ce type de civilisation est fausse. Il y a une volonté intelligente, une volonté libre, qui intervient et elle choisit entre les individus. Et alors ça fait voler en éclats toute la mentalité de ces civilisations. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. C'est jusqu'à ce que cela se dévoile au passage de la mer Rouge. Là j'ouvre une parenthèse, le Midrash dit que seul le Pharaon a finalement reconnu cela, il a été sauvé. Le verset dit, ils ont tous péri dans la mer Adéhad, jusqu'à un. Un, c'est le Pharaon. Et voilà comment le Midrash l'explique. Mais c'est ceci pour dire que c'était l'objectif des Hébreux de faire dévoiler ça, révéler ça à l'Égypte, et ils n'ont pas réussi. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu s'adresse à Moïse pour lui dire, dans la parasha de Bo, Bo el paro ki ani ichbati et libo et avada, lema'an shiti ototai ele bekirbo. Lorsque Moïse s'inquiète, s'affole de cette intensification de la persécution corollaire, d'ailleurs, au plaies, je raccourcis un peu mais je continue, eh bien Dieu lui révèle, c'est moi qui ai endurci le cœur du Pharaon pour placer en son sein ces signes que vous, les Hébreux, c'est moi qui ajoute ça, n'avez pas été capable de faire. Il ne faut pas que cette aventure s'achève sans qu'il n'y ait de résultat, sans qu'il n'y ait de réussite. Alors Dieu, je paraphrase, dit à Moïse, vous n'avez pas réussi, moi je vais le faire. Mais il faut que se dévoile dans l'Égypte les signes que une providence gère le monde. Et finalement, seul le Pharaon va le reconnaître à la fin de tout ce processus, au passage de la mer Rouge. Le Midrash explique comme ça. C'est lui qui aurait pour la première fois dit les deux versets « Mi chamocha ba'eli ma'shev, mi kamocha nedar ba'kodesh » Une particularité grammaticale. « Mi chamocha » au début et « mi kamocha ». Les questions de grammaire. Quand il y a deux... Je ne sais pas si vous connaissez la règle de Bekat Kefat et Evi. Bon, je le dis très rapidement. Quand il y a un mot qui commence par une des lettres, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Bekat Kefat et Tav, mais en réalité c'est Kafrat, il y a un riche, une fois dans la Torah, il y a un dagesh. Eh bien, on met un dagesh dans la première lettre. Sauf si la dernière lettre du mot précédent est une des lettres Ehevi, Alev, He, Vav, Yud, les lettres qui forment les mots du nom de Dieu. Donc il y a un sens aussi plus que grammatical. Mais si le ta'am, l'accentuation de la lettre précédente, est disjonctif, alors, est conjonctif, alors on ne met pas de dagesh. Si c'est disjonctif, on met un dagesh. Alors il y a mi, chamocha, ba'ini mashé, Mi kamocha nedar bakodesh. Voilà comment le Midrash raconte ça. Le pharaon était en train d'être englouti dans l'eau avec les autres égyptiens, de se noyer. Alors quand il a dit mi kamocha, il avait de l'eau dans la gorge, il ne pouvait pas. Mi kamocha. Mais puisqu'il a dit mi kamocha, la deuxième fois il a pu dire mi kamocha parce qu'il a été sauvé. Bien. Alors je crois que vous pouvez prendre l'analyse du Kuzari pour. Comme clé de ce problème. C'est exactement ce que dans le Kuzari, Judas Lévi fait expliquer aux différents représentants des grandes théories. Le philosophe, le zoroastrien, le musulman, le chrétien, et jusque-là, le roi des Khazars dit « ça me satisfait pas ce que j'entends ». C'est encore la religion naturelle. quand le rabbin commence à parler, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. D'autant plus que chaque fois que le roi des Khazars avait demandé aux représentants de l'islam et de la chrétienté, mais d'où vous savez ça, il répondait, ben c'est les juifs, demandez aux juifs. Voilà un peu, si vous voulez, le problème qui est posé au début de l'ouvrage. Quelle heure est-il, je vais voir. Vous voyez, les récits que nous avons dans la Torah, en particulier dans cet épisode, ne sont pas symboliques, ne sont pas, je ne sais pas comment dire, je n'oserais pas dire mythiques, enfin c'est ce que les historiens des religions pourraient prétendre. Mais il y a un aspect légendaire dans cette histoire, comme dans d'autres histoires. C'est ce que mon maître appelait le caractère concret des événements. C'est-à-dire au-delà de la forme de tel ou tel événement, il y a ce qui se passe réellement. Et c'est ce qui se passe réellement, concrètement, dans le sens ni abstrait, ni matériel, mais concret, qui est formulé dans le texte de la Torah. Lorsque l'événement est suffisamment dévoilé, alors l'inspiration prophétique le formule de la manière éternelle qui concerne tous les exemples, les phénomènes du même fait. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi nous pouvons lire ce qui se passe dans la situation contemporaine en lisant ce texte qui concerne l'Égypte. Parce que c'est formulé de manière éternelle. Je tenais à préciser cela de manière concrète, dans un sens très précis d'une école philosophique d'Autriche. J'avais retrouvé ça il y a très longtemps, mais ma bibliothèque s'est perdue en France. Enfin, elle est restée là-bas. Et je ne pourrais pas vous citer quel philosophe autrichien avait donné cette signification du terme concret, mais c'est dans ce sens-là que mon maître Jacob Gordin, certainement, va l'employer. Le concret des choses. Alors c'est plus important que les détails de l'événement d'un point de vue historique. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Ce qui s'est raconté là se passe dans toutes les civilisations, dans la forme propre à telle ou telle civilisation. Mais la Torah l'a raconté de manière que l'on puisse l'étudier cela. C'est pourquoi je dis souvent, même si la prophétie s'est arrêtée, alors on peut entendre son message en étudiant les textes du Mikra. Et au fond, je me demande, là, vraiment, j'ai pas de source. Hein. Si vous citez ça, ne le citez pas. Ça m'a fait une blague en français d'Afrique du Nord. Si tu as peur, n'as pas peur. C'est pas que j'ai peur, mais j'ai peur d'avoir peur. C'est un peu la même chose. Ne me citez pas si vous ne dites pas que c'est pas, il n'y a pas de source. Qu'est-ce que je vous dis? Oui. On peut dire qu'au fond, si la révélation s'est arrêtée, c'est parce qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire avant que l'histoire de la modernité ne commence. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on peut avoir par rapport à la Shoah. Quand on parle du silence de Dieu par rapport à la Shoah, pourquoi Dieu n'a pas parlé? Pourquoi Dieu n'a pas parlé? Et la Bible, qui raconte tout ça, il n'a fait que parler. Seulement, on n'entend pas. Je referme la parenthèse. Voilà donc quel est le premier sujet que je voulais analyser. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ayez des questions, ça me permet de me reposer 5 minutes. Je vous garantis pas que j'ai des réponses, mais vous devez avoir des questions. Moi, j'ai une question. Pourquoi il fallait qu'il y ait deux rêves?
La réponse est donnée dans la Torah elle-même.
Oui.
Parce que les changements se déclenchent tout de suite.
C'est ce que la Torah dit. Une fois qu'il y a deux rêves, Joseph explique comme ça. Mais pourquoi il fallait qu'il y ait deux rêves?
Pour confirmer la véracité.
C'est la même chose. Pour à peu près la même chose. La Torah dit très clairement, Ishanut Ahalom. Tiens, ça me rappelle que Pierre nous a signalé que c'est le sigle de cette année. Ishanut, c'est 1756. Donc le rêve va se renouveler. Non, je ne pose pas la question parce qu'elle se pose à moi. Vraiment.
Pourquoi Yosef a rêvé de rêve? Comment? C'est de la vie, c'était deux rêves aussi.
Aussi. Bon, on peut aussi le brancher là.
Peut-être que c'est lui qui avait rêvé de rêve, qui pouvait interpréter deux
rêves. Oui, non, mais ça c'est a posteriori.
Peut-être que le deuxième rêve est encore plus invraisemblable que le premier. Que les épis, là, des épis.
C'est vrai. Mais le premier est déjà suffisamment invraisemblable.
C'est
bien peut-être a posteriori que lorsqu'un rêve est prophétique, il doit être tout dit.
J'ai pas vraiment de réponse, un peu dans ce sens-là, mais c'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi il doit être prophétique?
Ça concerne le végétal et l'animal. C'est de
oui, mais ça c'est a posteriori, une fois qu'on a vu ce qu'il y a dans le rêve. C'est que je me suis référé au Kuzari. Je ne sais pas si c'est, la réponse est suffisante. Peut-être il y a commencement d'indication. C'est que c'est un rêve qui se répète sans fin. Et le commencement de la répétition, c'est deux. À partir du moment où il y a deux, c'est Mirut Rabim Shnaim. Alors, ça s'amorce. C'est un rêve obsédant et qui recommence sans arrêt. Je ne sais pas si vous avez eu dans votre vie personnelle ce genre d'expérience. Il y a des rêves qui reviennent très souvent. Vous avez eu ça, ok? Et j'avais étudié en travaux pratiques, en philosophie, quelque chose que je n'ai pas vérifié par moi-même, mais qui m'avait beaucoup frappé. C'était le fait que quelqu'un était obsédé par le même rêve, très très souvent, mais chaque fois avec une petite modification. Il y avait un secret dans un tiroir. Alors il rêvait qu'il était dans la bibliothèque, et à chaque rêve, il s'approchait de plus en plus du tiroir. Et puis enfin, pour le dernier rêve, il trouve la clé, il ouvre le tiroir et voit ce qu'il y a dedans. Il se réveille. Et effectivement, c'est ce qu'il fallait découvrir. Bon, c'est un exemple qui nous avait été donné à étudier en Sadhana et qui est extrêmement important. Dans ces rêves obsédants, il y a peut-être un message qui se laisse deviner et qu'il faut décrypter. J'aurais été satisfait s'il y avait eu trois rêves. Parce qu'en fait, c'est au troisième top, si j'ose dire, que la répétition commence. Ma'avi Rishon Rishon. Après un et un, c'est là que ça commence. Mais tous les rythmes, c'est comme ça. Et quand vous frappez pour rentrer quelque part, toc, 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 et après on rentre. Ou bien, s'il y a des mélomanes parmi vous, la musique, vous savez qu'une mélodie s'enclenche à la troisième note. C'est vrai. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Ah, tu n'as pas encore trouvé ça. Et...
Sauf la musique militaire.
Avec la marche,
il y a
un double clic et ça marche.
Ah ben j'ai compris. Oui, la préfiguration de la modernité, elle est déjà dans la Bible. Bon, ça va dans cet ordre, je crois.